à l'époque où elle est conçue, à la fin des années 50, et on arrive avec une architecture astucieuse à une vitesse de plus de 300 000 opérations par seconde, ce qui est considérable à l'époque. La machine a été conçue par trois personnes, Henri Boucher, ingénieur du génie maritime, Jean Brodin qui était au LRBA et Raymond qui était le patron de la SEA. Et rétrospectivement, tous trois disaient plus tard qu'ils avaient conçu sans doute l'une des premières machines dataflow de l'histoire de l'informatique. Autre vue de cette machine Dorothée, l'IBM Stretch. C'est pas la peine que je vous montre l'image qui n'apparaît pas ici. Elle est dans les réserves du musée des arts et métiers. En tout cas, le CEA a fait don de la console du Stretch au musée des arts et métiers. Donc là, on est dans le chapitre des importations, des machines sur lesquelles les grands utilisateurs français peuvent compter ou croient pouvoir compter à l'époque. En provenance des États-Unis, sachant qu'il y a... au début des années, dès la fin des années 50, IBM, au début des années 60, Univac, et à partir de 1963, une filiale de contrôle data qui s'installe en France et qui crée une usine en 1966 à Ferney-Voltaire pour construire des CDC 3600 et 6000. Ces grandes multinationales sont particulièrement intéressées par le marché français, car celui-ci est le premier marché pour le HPC, avant la lettre. La France étant, à la fin des années 60, le premier utilisateur européen de gros ordinateurs et le deuxième mondial après les États-Unis, peut-être ex aequo avec la Grande-Bretagne, avec 148 ordinateurs, toutes marques, 148 gros ordinateurs de cette classe, toutes marques comprises, à la fin des années 60. La seule contrôle data a 32 ordinateurs fin 1968, dont 7 énormes CDC 6000. La question de l'embargo américain. Le principe sur lequel est fondé l'embargo américain, c'est la loi McMahon, votée par le Congrès américain en 1946 sur les limitations que les États-Unis doivent imposer à la prolifération des armements nucléaires. En fonction de cette loi McMahon et des conjonctures politiques, et notamment des heures et malheurs des relations franco-américaines à l'époque, après l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, dont les relations avec les États-Unis sont fondées sur des objectifs d'indépendance, en tout cas d'autonomie stratégique, les États-Unis ont déjà refusé le transfert d'un système de guidage inertiel qui était destiné à un missile qui s'appelait le Casseur, qui était le premier projet de lanceur pour la bombe. 4 ans plus tard, le 1er août 1963, John Kennedy avertit de Gaulle que toute assistance américaine à la France dépendra de la conformité de la politique nucléaire française au McMahon Act et de son intégration à l'OTAN. On demande aux Français de faire comme les Anglais, c'est-à-dire n'avoir pas d'armes nucléaires qui ne soient pas sous contrôle américain. En 1964, bon, le programme évidemment continue malgré tout au CEA et dans les administrations dirigées par le gouvernement gaulliste. En 1964 sont annoncées d'une part la série Control Data 6000, qui est de loin les plus gros ordinateurs du monde à l'époque, les plus puissants, et d'autre part la réplique qui est l'IBM 360-95, qui vaudra un procès intenté par Control Data à IBM parce que la machine IBM n'existe que sur le papier et n'est annoncé que pour dissuader les utilisateurs, les clients potentiels de faire passer des commandes à Control Data. Le CEA, de toute façon, est intéressé par les deux machines et donc il envoie des démarches prospectives et des demandes d'informations à Control Data et à IBM. Et en mai 1965, officiellement, Washington refuse les licences d'exportation, ce qui crée un certain émoi à la direction du CEA et notamment à la direction des applications militaires, la DAM. Quelles conséquences ça va avoir? C'est un événement vrai. C'est peut-être le premier incident diplomatique de l'histoire qui ait trait à des questions d'informatique et de calcul électronique. On en parlera beaucoup. Les conséquences ne sont pas aussi graves qu'elles ont été montées en épingle à l'époque. On a beaucoup attribué à cet embargo américain la décision de lancer le plan calcul. Ça, c'est absolument faux. La vraie motivation du plan calcul, c'est l'affaire Bull et la volonté du gouvernement français d'avoir une industrie informatique autonome. Et la meilleure preuve, c'est que l'objectif officiel du plan calcul, c'est de développer une gamme moyenne de gestion. Il y a bien quelque part, en bas de page, un projet de calculateur P4. Ça n'est rien d'autre qu'un bas de page. C'est très vague. Peut-être, si les circonstances s'y prêtent, si le terrain n'est pas trop lourd, s'il ne pleut pas ce jour-là, on fera un P4 dans très longtemps. Le plus gros ordinateur produit par la C2I, l'Iris 80, n'a rien à voir avec un ordinateur de la classe CDC 6000 ou IBM haut de gamme. L'Iris 80 est un gros ordinateur de gestion, et bon, un peu pour le calcul scientifique, mais qui sera surtout utilisé dans des grandes administrations et dans des universités pour faire un petit peu toutes sortes de traitements. En arrière-plan de ça, il faut rappeler l'inexistence d'un projet récurrent de grand calculateur européen qu'on voit déjà apparaître en 1963 avec l'affaire Bulle. Une des tentatives caressées pour résoudre l'affaire Bulle et pour commencer à répondre aux défis américains à cette époque, en 1963-64, c'est une alliance entre Bulle, ICT ou Ferranti, enfin un des gros constructeur anglais et un autre petit constructeur français pour développer éventuellement une gamme de gestion, mais aussi pour faire un grand calculateur qui permettrait d'être autonome par rapport au monde. Ça ne mène à rien puisque Bulle est absorbé par General Electric, enfin devient une filiale de General Electric. Ce projet de calculateur européen, on le retrouve dans le plan calcul. Tous les ans, des délégués du plan calcul d'ICL, de Siemens, de Philips, de Telefunken se retrouvent à Bruxelles, font des réunions, font un bon dîner, disent aux eurocrates absolument tout ce qu'il faut pour leur faire plaisir en disant « oui, nous allons penser à étudier, à envisager la possibilité d'éventualité d'un calcul européen » avec pour mission précise de leur direction respective de ne rien faire avancer dans ce domaine. C'est Bruce, c'est-à-dire l'un des conseillers stratégiques, l'un des directeurs de stratégie de produits de la C2I qui nous l'a dit aussi clairement que ça. Finalement, en fait, l'affaire de l'embargo se solde par des accords et des compromis franco-américains avec l'accord de Breyfoller d'octobre 1966, c'est-à-dire un mois après la création de la délégation informatique. Un an plus tard, l'embargo est levé pour les CEA civils qui acquièrent un CDC 6600 et un gros IBM.